France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La Hongrie de Horthy, 1920-1944.
En Hongrie, la fête de Saint-Étienne, roi fondateur de la nation hongroise, est chaque année l'occasion de grandes manifestations nationales. La chasse contenant la main droite du Saint-Roi est suivie par le régent Horthy et par le légat du pape, le cardinal Pacelli.
Ah, la couronne du Saint-Souverain de l'an 1000, précieux symbole, qui vient d'être installée sous la coupole du Parlement de Budapest et au frontispice de la nouvelle Constitution que vient d'imposer le Premier ministre Viktor Orban. On a tenté de rapprocher le régime singulier qui se met en place à Budapest avec le Venezuela de Chavez, le Cuba de Castro, mais c'est confondre le spectre d'Ottokar et Tintin chez les Picaros. Au-delà de la couronne de Saint-Étienne, le légendaire hongrois se nourrit en effet d'épisodes dont la résonance ne peut être entendue que par des esprits d'Europe centrale. Il y eut ainsi, en 1686, la libération de Buda, occupée par les Turcs depuis 150 ans. C'était le dernier épisode en Europe de l'épopée des croisades. En 1848, la splendide révolution du nationaliste Kossuth. Enfin, la brillante double monarchie, la regrettée Kakhanie. L'Empire, dans les années 1860, s'était en effet réformé dans un sens très favorable au royaume de Hongrie, qui s'était vu reconnaître un très vaste territoire et une large autonomie. L'époque qui va nous intéresser aujourd'hui commence avec le démembrement de ce rêve. Elle n'est pas sans annoncer celle d'aujourd'hui, où les nationalismes éclipsent l'idée européenne. Bala Jablonski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur depuis avril dernier de l'Institut culturel hongrois, qui a une belle adresse à Paris.
Oui, un beau bâtiment.
C'est rue Bonaparte. Vous avez fait des études d'histoire tour à tour à Budapest, où vous enseignez maintenant l'histoire du XXe siècle, et à Strasbourg, où vous avez beaucoup travaillé déjà sur les relations entre la France et la Hongrie. Merci de venir au micro de France Inter, parce que vous auriez pu avoir quelques hésitations dans cette période difficile.
Merci pour l'invitation.
Je disais, la chute de la double monarchie avec la fin de la guerre de 14, c'est une catastrophe pour la Hongrie. Et d'ailleurs, c'est seulement en Hongrie que, dans les décombres de l'Empire austro-hongrois, se lève une révolution en 19, un peu comparable au spartakisme en Allemagne. Ou alors, il nous faut des références françaises à notre commune de Paris, parce qu'il s'agissait pour les communistes, comme pour les communards en 1871, de lutter contre les exigences des vainqueurs.
Oui, oui, c'est vrai. Enfin, la comparaison se tient, je crois. Mais il faut savoir que quand même cette commune, en fait, cette République des conseils, comme on l'appelait à l'époque, a apporté, je dirais, une nouvelle qualité entre guillemets, bien sûr, dans la vie politique hongroise. La terreur politique ne s'est pas présentée de cette façon, jamais auparavant. Donc, des gens exécutés ou emprisonnés pour leurs convictions religieuses ou politiques, etc., où c'était pas du tout, à la mode, même en temps de guerre. Et donc, c'était la terreur rouge, enfin, c'était cette République des conseils de 133 jours, qui a instauré en quelque sorte cela dans le pays. Et pendant cette terreur rouge, enfin, il y avait des exécutions sommaires, etc., qui ont fait qu'en réaction est née une certaine terreur blanche.
Je pensais que vous alliez en parler. Alors la terreur blanche, elle est souvent décrite dans le cinéma hongrois, qui a été très riche dans les années 70-80, un petit peu même avant le début de cette époque, œuvre Miklós Jancsó, qui est une sorte de Robert Bresson hongrois, qui utilise des méthodes silencieuses et abstraites pour représenter la Pucsa, la plaine hongroise. Là, on est après la défaite de la commune, de la République des conseils, et des soldats viennent démolir les maisons basses dans les campagnes, humilier les hommes et les femmes taciturnes.
Pi 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 p
Menjenek! Menjenek!
Vegy el a kendőjét.
Hagyjon, a parancsnokhoz megyünk.
Gombolja ki. Maga is. Ne innen, onnan! Szaladjon egy kicsit, legyen szíves! Szaladjon csak! Lőjön már.
Deux, trois mille morts, quand même. Et souvent, les morts sont le fait de soldats étrangers, parce que c'est les soldats des vainqueurs qui vont installer le nouveau régime en Hongrie après la chute de la Commune.
Non, la Terreur blanche, c'est presque essentiellement l'œuvre de ces détachements militaires, organisés d'ailleurs autour de l'amiral Horthy, dans le sud du pays, qui ont commis ces exactions. Des nouvelles recherches scientifiques, enfin je ne vais pas entrer dans une guerre des chiffres, des nouvelles recherches scientifiques chiffrent le nombre des victimes de cette Terreur blanche entre... disons 500 et entre 1500 à peu près. Et les victimes de la Terreur rouge, c'est entre 300 et 500 personnes dans le pays. Mais comme je le disais, c'était une nouvelle qualité dans la vie politique hongroise de régler ses affaires à cette manière en négligeant l'état de droit.
Bénéficiaire l'amiral Horthy que vous venez de citer, qui arrive porté, j'insiste sur le rôle des troupes des vainqueurs par les Roumains, notamment à Budapest. Nous sommes fin 19, début 20. Il est juché sur un cheval blanc. Enfin, il arrive quand même dans les fourgons de l'étranger. C'est un ami des aristocrates terriens, de ceux que les paysans du cinéaste Yan Shaw doivent saluer toujours, son Excellence, Monsieur le Comte. Mes respects, Monsieur le Comte.
C'est un peu plus compliqué que ça, comme d'ailleurs toute l'histoire hongroise. En vrai, il faut savoir que Horthy est d'abord, ce qui était assez étrange, et il est calviniste, protestant. Donc quand on entend l'extrait qu'il est derrière les reliques de Saint-Étienne, c'est une situation assez loufoque parce qu'un protestant suit une messe catholique. Donc il est protestant, il est propriétaire terrien, mais moyen, enfin je veux dire, il a 3000 hectares au milieu de la grande plaine hongroise, de la Pusta que vous venez d'évoquer. Et les grands aristocrates hongrois sont essentiellement des catholiques et qui sont des légitimistes, donc des royalistes, des fidèles du roi Charles Ier. Enfin, pour les Hongrois, c'est Charles IV. Mais
Et les Autrichiens, c'est l'empereur, le dernier empereur d'Autriche. Mais oui, il est roi en Hongrie.
Il est roi en Hongrie. Et donc, ces aristocrates acceptent assez mal Horthy au début des années 20 parce que c'est lui qui chasse le roi Charles quand il essaye de retourner en Hongrie à deux reprises en 1921.
Premier détournement d'avion, c'est le roi Charles qui en est le responsable. Son avion vient de Suisse, arrive en Hongrie et l'homme au cheval blanc le chasse. Il est surtout quand même le responsable, Horthy, dès le départ de la signature du traité de Trianon. Alors il faut que vous nous expliquiez ça parce qu'on continue de parler du traité de Trianon et de disputer de la carte de la Hongrie encore aujourd'hui en 2011.
C'est une des... Les Hongrois... il y a beaucoup de tragédies nationales en Hongrie, mais parmi eux, donc... Le traité Trianon, donc le traité qui clôt en quelque sorte la guerre, la grande guerre pour la Hongrie, ses dispositions territoriales, enfin à peu près deux tiers du territoire est détaché du royaume de Hongrie et à peu près autant, enfin un peu moins, 60% des habitants et également. Donc la population, le pays est réduit à un tiers. Ce qui est un peu plus grave parce que bon, parmi les nationalités, enfin qui vivaient en Hongrie, pour les Roumains, Serbes, Slovaques, c'était au moment de la libération, bien évidemment, mais il y avait quand même un peu plus que 3000 Hongrois de souche, enfin Hongrois de hongarophones hongrois qui sont restés dans les pays voisins et sur une communauté linguistique de 10 millions de personnes à l'époque. 3 millions de personnes, donc il y avait un Hongrois sur trois vivait à l'étranger. Donc ça a causé un énorme choc dans la société hongroise avec ces révolutions à la fin de la guerre. Et voilà, donc ce sont les dispositions en gros.
Quand on dit que le traumatisme existe encore maintenant, on sait que Viktor Orban, je fais juste une parenthèse que je ne vous demande pas de commenter, veut restituer le droit de vote aux Hongrois qui habitent à l'extérieur. Alors, Budapest a beau retrouver assez vite une certaine prospérité. C'est un film touristique qu'on trouve sur YouTube qui la décrit ainsi. Le diktat de Trianon continue de bouleverser les consciences.
Gracing the banks of the historic Danube River lies the beautiful city of Budapest.
La cité historique de Budapest réunit ce qui était anciennement deux villes. Buda sur la rive gauche du Danube et Pest sur la rive droite.
In the capital city, it supports one of the largest houses of parliament in the world.
La capitale possède l'un des plus grands parlements du monde, qui rappelle la place importante que tenait la Hongrie dans le défunt empire austro-hongrois. Sur cette carte, vous voyez d'un côté ce que la Hongrie est devenue et de l'autre ce qu'elle était avant le traité du Trianon, la Grande Hongrie. Naturellement, le peuple hongrois est déterminé à faire réviser le traité. En attendant, le drapeau est en berne.
Justice, révision, crie le gouvernement Ortiz, c'est la ligne directrice de sa politique étrangère. Aujourd'hui encore, quelle carte met-on sur les murs des écoles ou sur les murs des cafés?
Des cafés, ça je ne sais pas, mais dans les écoles, c'est la carte de la Hongrie actuelle. Enfin, je veux dire, juste un petit mot sur le droit de vote, parce que ça existe quand même. C'est un peu étrange pour en France, mais dans beaucoup de pays de l'Union européenne, ça existe le droit de vote des anciens citoyens. Ça existe en Italie, en Roumanie, un tas d'autres pays. Donc ça, on peut discuter là-dessus, si c'est justifié ou pas. Mais ça existe, c'est une pratique européenne qui existe.
Sorti dans les années 20, certaines prospérités économiques, certains libéralismes économiques, on vote, le Parlement est élu.
Oui, mais d'une manière assez contrôlée, parce que dans les campagnes, on vote à bulletin ouvert. Donc ouvertement, on déclare ouvertement son vote, ce qui est assez bon, ce qui est assez étrange. Et donc on sent très bien que ça limite en quelque sorte le libre exercice du droit de vote. C'est dans les villes qu'on vote à bulletin secret. Et c'est à partir de la première fois, c'est au cours des élections de 1939, que le pays vote secret. Et d'ailleurs c'est la première grande percée de l'extrême droite dans le Parlement.
Mais restons-en aux années 20, où le Premier ministre Bethlen est assez intelligent pour permettre quand même une expression assez libre dans les journaux. Le Parti communiste est interdit, par exemple, mais il peut s'exprimer avec des associations ou des journaux cache-sexe.
Oui, certainement. Le PC hongrois est sous contrôle. Ça fonctionne d'une manière illégale, comme d'ailleurs dans toute l'Europe centrale entre les deux guerres. La seule exception, c'est le PC en Tchécoslovaquie où le Parti communiste a ses députés, journaux, etc. Mais effectivement, il y a des partis d'opposition au Parlement en Hongrie. Il y a des journaux d'opposition. Il y a une liberté intellectuelle assez conséquente. Mais les cadres politiques du régime, surtout aux années 20, sont intouchables. Enfin, on ne peut pas y changer. Mais il faut dire qu'il faut voir ça dans un contexte d'Europe centrale. Ce genre de régime autoritaire existe un peu partout, en allant de la Grèce jusqu'à l'Estonie.
Régime autoritaire, on posait régulièrement la question à François Feichte, grande conscience hongroise qui a fini par s'exiler en France et qui, à un moment, fut leader d'un petit groupe communiste.
C'était pas une vraie dictature parce qu'il y avait une presse relativement libre, il y avait une vie parlementarisme. C'était un état de droit limité où le Parti communiste était hors la loi et où le communisme a pris dans la classe ouvrière et dans la paysannerie certaines racines. Mais autrement, les formes d'un état de droit étaient sauvegardées.
Vous avez quand même été arrêté par la police.
J'ai été condamné à 1 an de prison. C'était une étrange prison parce qu'en tant que prisonnier politique, j'ai pu garder mes vêtements civils. J'avais 2 heures de promenade par jour. J'ai pu m'abonner au journal qu'on m'a servi tous les matins. En fait, j'ai pu lire Marx intégralement, du début à la fin. J'ai travaillé, je ne suis pas ennuyé du tout.
Dans Budapest, qui brille encore de beaucoup de feu dans les années 20, il y a des intellectuels et des artistes de premier rang.
Oui, enfin, des deux côtés. Enfin, il y a une intelligentsia qui est proche du régime. Il faut dire que d'une certaine façon, le régime et les politiciens reconnaissent même les gens qui ne sont pas forcément leurs fidèles. Enfin, je veux dire, par exemple, Béla Bartók, que l'on connaît, le grand compositeur hongrois, qui était un humaniste absolument, qui a émigré en 1940. Partiellement ou en grande partie à cause du nazisme, a quand même reçu en 1931 la chaîne Corvin, qui était la décoration suprême pour intellectuels qui ont pas donné par le décerné par le gouvernement. Donc il y a une ambivalence dans l'appréciation des intellectuels de l'époque.
On dit souvent que Bartók n'était pas très à l'aise avec la culture officielle, ni non plus
ça, c'est sûr.
Avec les assises nationalistes qui étaient de plus en plus mises en place.
Bartók est né dans un village hongrois, qui maintenant est un village roumain. Quand sa mère est allée vivre dans une ville pour que le petit Béla puisse avoir une instruction plus sérieuse, cette ville était hongroise. Après la Première Guerre mondiale, tout à coup cette ville était devenue tchèque. Et la mère de Bartók ne savait plus si elle était roumaine, si elle était hongroise ou si elle était tchèque. Pour Bartók, vivre auprès des paysans, c'était retrouver la ligne mélodique pure, absolument pure, de tout le centre-Europe, pas seulement hongrois, mais roumain, mais slovaque, et puis ensuite yougoslave.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Béla Jablonski qui dirige l'Institut culturel hongrois à Paris, nous parlons de la Hongrie des années 20, celle de l'amiral Horthy, celle de Bartók aussi. La région natale de Bartók, dont parlait Brigitte Massin avant qu'on entende la danse du berger, une des danses paysannes hongroises, elle est passée d'un pays à l'autre. La question après Trianon, le traité de 19, vous l'avez dit, c'est où est la Hongrie? Et l'autre question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Hongrois? Un Hongrois, c'est pas seulement quelqu'un qui a mal à Trianon.
Non, certainement pas, mais c'était la grande question des années 20-30. Il y a une véritable littérature de crise qui se développe dans le pays. Il y a justement des ouvrages qui paraissent, qui se questionnent. Qui sont les Hongrois? Qui sommes-nous? Quelle est notre mission? Enfin, s'il y en a une, être un bouclier enfin, de l'Occident et défendre contre les invasions barbares. Ou contrairement, nous sommes le fer de lance des peuples d'Orient qui arrivent en Europe. Donc, il y avait tout un questionnement tout autour, et les esprits les plus brillants, et pas seulement ceux de droite, se sont posé cette question que dans ce moment de déchirement, qu'allons-nous faire?
Mais les Hongrois, c'est un des peuples les plus métissés d'Europe, et vous vous souvenez de ce qu'on disait en France à cette époque-là. Il y a les Hongrois métissés, et puis il y a ces Magyars qui se croient purs, qui se croient à part, comme s'il n'y avait pas que les Français qui étaient à part.
Oui, enfin bon, il y a des nationalistes, il y en a dans chaque pays. Ça m'étonne toujours cette différenciation entre Magyars et Hongrois, parce que en tant que Hongrois, je ne vais pas entrer dans un débat de terminologie, pour l'image sur soi, pour pour les Hongrois, c'est qu'ils sont magyars, donc c'est une autodénomination pour tout Hongrois. Et le Hongrois, c'est l'expression utilisée quand on parle de la Hongrie en français. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait une surenchère nationaliste, surtout à partir des années 30, la crise économique mondiale aidant et la montée du nazisme aidant. Il y a une toute sorte de restructuration de la pensée d'extrême droite en Hongrie et on voit effectivement de nouvelles poussées nationalistes.
Alors, on va en arriver aux années 30. La question est celle-ci, où il y a une grande Hongrie avec les nationalités les plus diverses, comme au temps de la double monarchie, ou une Hongrie plus petite où il n'y aurait que des Hongrois.
Nous avons, entre les deux guerres, nous avons une Hongrie plus petite, mais c'est vrai qu'il y avait un débat, même dans l'élite politique hongroise, si on veut la révision des frontières, qui était un programme communément accepté, qu'est-ce qu'on veut reprendre ? Tout le territoire, tout ce qui était auparavant, ou seulement les territoires habités par des Hongrois. Mais et il faut dire que même les partis de gauche, enfin des libéraux, des sociaux-démocrates, étaient pour la révision au caractère ethnique, c'est-à-dire que les territoires habités par des Hongrois retournent au pays.
Mais dans la petite Hongrie, il n'y a que des Hongrois, mais il y a des Juifs hongrois, à moins que ce ne soit des Hongrois juifs. Alors il faut qu'on parle de cette question. Autre emprunt. À la grande cinématographie hongroise, Ils ont des abos. C'est un film qui s'appelle Sunshine et qui raconte l'histoire d'une famille à qui la pression sociale, c'est une famille juive, impose de changer de nom et puis aussi de changer de religion.
Tout le monde me dit beaucoup de bien de vous. On vous dit incorruptible et très érudit. Nous songeons à vous pour la haute cour. Mais je préfère être direct. J'espère que vous n'en serez pas offensé. Il n'est pas possible que le juge président la haute cour porte un nom comme Sonnenschein. Nous souhaitons votre avancement, nous avons besoin de vous, mais il vous faudra changer en faveur d'un nom consonance plus hongroise.
Je vois, oui.
Naturellement, il ne s'agit que d'un conseil bienveillant, d'homme à homme, et non d'une requête officielle.
Je comprends, bien sûr.
En fin de compte, la décision vous appartient.
Le juge en chef m'a conseiller d'adopter un patronyme plus hongrois si je veux être nommé en haute cour.
Cela veut-il dire que tu as aussi l'intention d'abandonner ta foi ?
Non, père, je ne l'abandonnerai jamais, je peux vous le jurer.
Beaucoup de jeunes médecins l'ont fait, vous savez. D'ailleurs, pas que des Juifs, des Slovaques, des Serbes.
Ah oui. Oh, de toute façon, nos noms ne nous viennent pas de Dieu.
Que diriez-vous de Scholium ?
Scholti ?
Chamlo.
Ça y est, Schorsch. Ça veut dire la même chose en latin qu'en hongrois. Prophétie, oracle, destinée, tâche.
Docteur Gustav Schorsch.
Alors les juifs innombrables dans le droit, la banque, la presse, les sciences nouvelles et les sciences anciennes entendaient cette antienne depuis très, très longtemps, déjà à l'époque de l'Empire. Mais au moment où arrive l'amiral Horthy, 1920, première loi antisémite de l'époque dans la région, le numerus clausus, pas plus de 5% de juifs dans l'enseignement supérieur.
C'est cela, oui. Effectivement, c'était une première dans la région. Il faut dire que c'est une tragédie dans le sens que quand on parle, par exemple, des prix Nobel d'origine hongroise, prix Nobel de physique, Kevesi et autres, c'est des gens qui ont quitté le pays à ce moment-là parce qu'ils n'avaient pas de perspective, ils n'étaient pas le chemin vers l'université était bouché, donc ils se sont orientés vers l'extérieur, d'abord les universités allemandes, puis les universités britanniques ou américaines. Et voilà, c'est comment ils ont arrivé aux États-Unis et comment ils ont arrivé jusqu'à prix Nobel. Et c'est vrai que les Juifs hongrois étaient parmi les plus assimilés de l'Europe centrale. Donc, c'était des Juifs, comme on disait, néologues, donc réformistes, très urbanisés, comme vous venez de dire, très, très, très engagés dans les sciences nouvelles, dans la vie intellectuelle, etc. Donc, cette coupure était assez mal vécue par beaucoup de gens, ce qui est tout à fait normal. L'idéologie pour tous là était du régime Horthy était de que il y avait beaucoup trop de juifs parmi les communistes de cette République des Conseils. Mais il faut savoir que au début des années 20, certainement il y a une vague antisémite, mais ça se calme et finalement oui, le numerus clausus est aboli en 1928 en partie sous la pression de la Société des Nations.
Alors on va dire que à l'époque nationale chrétienne, l'Église hongroise était passablement judéophobe. à commencer par le futur cardinal primat Mincenti, la loi qui avait quand même été promulguée et mise sous le boisseau. Mais alors, dans les années 30, il y a l'influence de l'antisémitisme hitlérien. Le Troisième Reich aspire politiquement et économiquement la Hongrie.
C'est assez douloureux de dire, en tant que bon patriote hongrois, mais il faut dire que les premières lois juives qui arrivent à la fin des années 30, 38, 39, ne se sont pas faites sous la pression des Allemands. Bien sûr, c'était dans l'esprit de l'époque, mais c'était la classe politique hongroise, essentiellement de droite et d'extrême droite, qui a instauré ça. Il faut savoir que pendant toute l'époque de l'entre-deux-guerres, un seul parti était au gouvernement. Enfin, c'était le parti de gouvernement, parti de majorité, un parti de droite qui se meut vers l'extrême droite au début des années 40.
Alors, Horthy était quand même conscient de la trop grande influence de l'Allemagne. On dit qu'en 1938, à l'annonce de l'Anschluss, il aurait pleuré dans sa loge de l'opéra. Néanmoins, l'obsession de la révision de Trianon était si forte que Budapest va voir beaucoup d'avantages aux rétrocessions que dorénavant lui permet l'Allemagne. 1938 d'abord.
À Vienne, le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères d'Italie, et M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, se réunissent au château du Belvédère pour rendre leur arbitrage sur les revendications hongroises en Tchécoslovaquie. La Hongrie obtient presque entièrement satisfaction, sans que toutefois la frontière commune avec la Pologne lui soit accordée.
Et en 1940, nouvel arbitrage de l'Axe en faveur toujours de la Hongrie.
Acclamé avec enthousiasme par la population, la Honvéd fait une entrée triomphale en Transylvanie qui a été cédée à la Hongrie à la suite de l'arbitrage de Vienne. Le régent amiral de Horthy est vivement acclamé à son entrée dans la ville de Novigrad.
Il faudrait toute une émission pour raconter la triste fin du bel et bon amiral. Ici l'hymne des Croix Fléchées, le parti pro-nazi hongrois qui va finir d'ailleurs par prendre le pouvoir à la fin de 1944. Horthy s'est laissé prendre dans un piège.
Il faut savoir qu'il était, c'est peut-être pas une bonne explication, mais il était déjà assez dans un âge assez avancé à ce moment-là. Donc il est né en 1868, donc il avait plus de 70 ans à ce moment-là. Donc son fils a été enlevé par les Allemands, donc il était littéralement, les Allemands ont fait pression sur lui par ce biais, et il voyait pas d'autre issue. Mais certainement, en mars 44, il y avait quand même une première étape. Les Allemands ont envahi la Hongrie. Il y avait une occupation allemande. Et c'est à ce moment-là que l'Holocauste, la déportation des Juifs hongrois commence. Et là, il y a une certaine responsabilité de Horthy. Et plus tard, les croix fléchées débarquent en octobre 44 comme ultime carte des Allemands pour tenir la Hongrie à leur côté.
Et quand ils seront vaincus, ils repartiront avec toujours la couronne de Saint-Étienne, la fameuse couronne de Saint-Étienne, sous le bras. Enfin, il était très vieux déjà, Horthy. Il a quand même survécu, protégé par les Américains et par Salazar au Portugal jusqu'en 1957. Juste une dernière question, on ne va pas vider ici la querelle de ses responsabilités, mais est-ce qu'il y a des tentatives de réhabilitation de l'amiral à l'époque du dictateur, c'est comme ça que dit l'opposition hongroise, à l'époque du dictateur Orban?
S'il s'agit d'ériger des monuments de Horthy ou de le mettre dans une posture plus avantageuse, je crois que non. Il a été re-enterré en 93 en Hongrie, en présence d'une foule assez grande et en présence des membres du gouvernement à titre non officiel, ce qu'on disait. Mais c'était un autre gouvernement jeune. Il y a un certain nombre de rues, surtout dans des municipalités de province, qui sont nommées d'après Horthy, mais je ne vois pas dans la vie historiographique et politique, je ne vois pas une poussée énorme. Peut-être c'est une opinion personnelle que d'autres ne partagent pas, mais je ne vois pas une réhabilitation forcée de l'amiral de Horthy. Justement, il y a un jeune historien hongrois qui vient de sortir une magnifique, magnifique biographie de Horthy, tout à fait dans les normes scientifiques et pas du tout dans un élan d'éloge.
Enfin, tout de même, le mouvement d'extrême droite Jobbik, qui est à l'extrême droite d'Orban, propose une statue équestre. Et devant qui les 65 députés de ce parti prêtent-ils serment? Devant quoi, pardon? Devant la couronne de Saint-Étienne, toujours elle. Balázs Ablonski, directeur de l'Institut culturel hongrois, merci d'avoir été des nôtres. Guillaume Roux, Sophie Moreno à la technique. Remerciements à Marie Casanova qui nous a accompagnés pendant tout un mois et à Franck Olivard, Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier, l'équipe permanente de la Marche de l'Histoire.